Chapitre 5. Car tout pontife pris d'entre les hommes, tout prêtre, est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut compatir. Voyez, il peut compatir à ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisqu'il est lui-même environné de faiblesse, le prêtre. Et c'est pour cela qu'il doit offrir, pour lui-même aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Les prêtres se confessent, les prêtres peuvent célébrer la messe à leur propre intention, ou demander à un prêtre de célébrer la messe pour leur intention. Et nul ne s'attribue à lui-même cet honneur, mais on y est appelé de Dieu, comme à Aaron, le frère de Moïse, Lévite, de la tribu de Lévi, et la famille des prêtres, des grands prêtres, et des prêtres, à Aaron. Et donc, dans le Nouveau Testament aussi, la simonie, c'est le magicien Simon qui voit les apôtres obtenir des miracles de Dieu, il dit... Est-ce que je peux acheter votre pouvoir? Il paraît que quand vous imposez les mains, qu'il y ait un peu d'huile, c'est quoi? C'est la confirmation? C'est intéressant. Je peux l'avoir? Enfin, si c'est difficile, je peux vous payer. Ça s'appelle la simonie. Et la simonie, c'est payer pour avoir du sacré, du religieux. Ben, c'est un sacrilège. Et donc... Quelqu'un veut devenir prêtre, eh ben, le bon Dieu peut l'accompagner 1, 2, 3, 4 ans au séminaire et puis il sort du séminaire. C'est que le bon Dieu voulait qu'il vive cette expérience spirituelle, mais pas qu'il devienne prêtre. On ne peut pas exiger le sacerdoce. Et ce n'est pas un drame de ne pas être prêtre. Voyez. Mais c'est cette gratuité et c'est ce risque qu'on prend quand on rentre au séminaire qui nous fait comprendre que par nos manœuvres, il est bien difficile de devenir prêtre. Il suffit qu'un professeur, que le directeur du séminaire ne nous aime pas, ou ceci ou cela, et blam. Et ainsi, le Christ ne s'est point arrogé à lui-même la dignité de pontife, mais il l'a reçue de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Alors, prêtre dans l'éternité, verbe éternel, prévision de l'incarnation, parce que pour être prêtre, il faut être homme. Comme il dit aussi dans un autre endroit, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est un roi qui conduisait la prière de manière patriarcale, comme les descendants d'Adam. Jusqu'à Noé, et Noé compris, jusqu'à Abraham. C'était les pères de famille qui conduisaient la prière, qui étaient les prêtres. Et Melchisédek était le roi d'une petite ville qui s'appelait Salem, Jérusalem. Et quand Abraham poursuit ceux qui ont attaqué Lot, en revenant, il offre la dîme, 10% de son butin sur les soldats des roitelets qui avaient attaqué Sodome et Gomorre, avant que ces deux villes soient détruites, où Lot habitait. Et donc, il donne 10% à ce prêtre, à ce roi prêtre, qui offre du pain et du vin. Et on ne sait pas s'il est jébuséen, c'est-à-dire de l'ethnie cananéenne de Jérusalem. On ne sait pas d'où il vient. Il est sémite, il est cananéen. Durant les jours de sa chair, donc là c'est l'incarnation, chapitre 5, verset 7, ayant offert des prières et des supplications, avec un grand cri et avec des larmes, à celui qui voulait le préserver de la mort, il a été exaucé à cause de son respect pour son père. Vous allez dire, il n'a pas été exaucé, il est mort. Oui, mais il est ressuscité. Et quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert dans sa nature humaine. Ayant été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. qu'on soit juif, hindou, aborigène, africain, aztèque, inca, gaulois, franc, celte, peul, vietnamien, tibétain, chinois, mandchou, c'est la cause du salut éternel. Dieu l'ayant déclaré pontife selon l'ordre de Melchisédek, hein, qui était une annonce de Jésus. Sur ce sujet, nous avons à dire beaucoup et des choses difficiles à expliquer. Donc il sait que c'est une révélation difficile, hein, ce qu'il est en train de dire. Hein. Parce que vous êtes devenus lents pour entendre. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Chapitre 5, verset 12. Et en effet, lorsqu'en raison du temps, vous devriez être maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers éléments de la parole de Dieu, et vous en êtes venu à avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Quiconque est nourri de lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car c'est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les parfaits, pour ceux qui ont acquis par la pratique un sens exercé de discerner le bien et le mal. Chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de ce qu'il y a à dire sur le Christ, élevons-nous à ce qui est plus parfait, sans poser de nouveau les principes fondamentaux de la pénitence pour les œuvres mortes de la foi en Dieu. De ce qu'on enseigne touchant les baptêmes, et aussi l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Vous avez vu ça? Il est en train de parler du credo. Oui, eh bien oui. Le symbole des apôtres, le petit credo, nous vient du premier siècle. Et la tradition dit que chacun a composé une ligne pour 12 apôtres, mais c'est, vous voyez, l'imposition des mains, c'est quoi? C'est le sacrement de l'ordre? Ou la confirmation? Alors qu'est-ce que ça veut dire de se dire chrétien et de ne pas avoir ce sacrement? Il y a un truc qui est bizarre. Et c'est ce que nous ferons, si toutefois Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont été rendus participants de l'Esprit Saint, qui ont également goûté la bonne parole de Dieu et les vertus du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés et ramenés à la pénitence, eux qui crucifient de nouveau pour leur malheur le Fils de Dieu et le livrent à l'ignominie. Là, il est en train de parler des apostats. Et là, il est très sévère. Hein. Il leur dit, vous pouvez pas vous relever. Ils pourront se relever. Mais là, il les prévient que ça va être très difficile de se relever. Car une terre abreuvée par la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit une herbe utile à ceux qui la cultivent, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et bien près d'être maudite, sa fin sera la combustion. Une petite idée de l'enfer, hein, ça vous de... C'est au Moyen-Âge? Non, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Cependant, nous espérons pour vous, bien-aimés, et puis le Christ en parle souvent, finalement. Hein. Cependant, nous espérons pour vous, bien-aimés, des choses meilleures et plus rapprochées du salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et l'amour que vous avez témoigné en son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, c'est-à-dire aux autres chrétiens, aux autres baptisés. Mais nous désirons que chacun de vous fasse paraître le même zèle à conserver votre espérance entière jusqu'à la fin, de sorte que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous deveniez les imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, hériteront des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, n'ayant pas de plus grand que lui, par qui il put jurer, il jura par lui-même. Et il dit, oui, je te bénirai abondamment et je multiplierai ta postérité. Et ainsi Abraham, ayant reçu avec patience, ayant attendu avec patience, obtint l'effet de la promesse. Son fils Isaac, de sa femme qui avait 90 ans, quand même. Donc on comprend pourquoi elle a ri quand elle a entendu ça. Et du coup, Dieu a dit, eh bien, ton fils s'appellera rire, puisqu'elle a ri. Et ça sera aussi une joie pour vous, Isaac. Car les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Dans les choses graves, on peut jurer, hein, on peut prendre Dieu à témoin. Et le serment qui sert de garantie met fin à tous leurs différends. Vous voyez qu'on peut jurer. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse le caractère immuable de sa résolution, fit intervenir le serment. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une très forte consolation, nous qui avons mis notre refuge dans l'acquisition des biens qui nous sont proposés dans l'espérance. Cette espérance, nous la gardons comme l'ancre solide. Okay, pourquoi l'ancre est le symbole de l'espérance? C'est dans l'épître aux Hébreux. Ah bon? Alors dans les catacombes de Rome, quand on représente des ancres, c'est que eh bien, ils avaient lu l'épître aux Hébreux. À flûte alors. Alors ça veut dire que c'est quand même du 1er siècle. Oui. Ah mince. Mais, suivant l'ancienneté des tombeaux, ils sont là, ils ergotent. Ils disent, ah mais non, ça c'est peut-être du 3e siècle. Mais pourquoi il y a une encre? C'est l'épître aux Hébreux. Alors ils se battent pour les datations des textes, pour dire mais tout est inventé, tout ça. C'était au Moyen Âge qu'ils ont fait des catacombes à Rome. Vous voyez. Comme l'encre solide et ferme de notre âme, elle pénètre jusqu'au dedans du voile du Saint des Saints, du Temple de Jérusalem, où Jésus, comme précurseur, est entré pour nous, ayant été fait pontife pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 7. Car ce Melchisédek, roi de Salem, ah ben ça alors, ça authentifie le livre de l'Exode? Mais c'est normal, c'est un juif, donc il revendique forcément son histoire juive. Ah oui? Mais non, Melchisédek n'a pas existé, c'est des prêtres de Jérusalem qui ont composé tout ça. Tiens, on va appeler ça comment, la Genèse, voilà. Vous voyez, l'historicité de l'Écriture sainte est impressionnante, hein. Parce que les textes réfèrent les uns aux autres. Oui, mais comme ils ont menti au début, c'est normal que tout soit faux. Voyez. Et vous, vous appelez comment? Robert, eh ben, ou Alfred, ou Jean, ou Paul, ou... Et alors, c'est pas votre prénom, en fait? Ah, ben si. Quand vous étiez petit, on vous a donné un autre prénom, et ensuite, vers l'âge de 10 ans, vous en a donné un autre. Et vous vous en souvenez pas. Mais vous remettez tout en cause. Mais oui, je suis un exégète. Chapitre 7, verset 1. Car ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui est là au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de vaincre les rois et le bénit, auquel aussi Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, selon l'interprétation de son nom, roi de justice, hein, Melchisédek. Puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, c'est la paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de sa vie, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, demeure prêtre à perpétuité. Considérez combien est grand cet homme auquel le patriarche Abraham donna la dîme des plus riches dépouilles. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Ça, c'est le denier du culte. Hein. Souvenez-vous. Alors, de nos jours, c'est 3 jours de revenus sur 365. Mais si vous voulez, moi, je deviens pasteur protestant et je vous demande 10%. Hein. Comme ça, vous verrez un peu ce que l'augmentation du carburant, ça sera loin derrière vous. Hein. 10% de vos revenus. Ah ben oui. Moi, je vais me faire rabbin et voilà. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, quoique ceux-ci soient sortis aussi des reins d'Abraham. Mais celui dont la génération n'est point comptée parmi eux a levé la dîme sur Abraham, Melchisédek, roi de Salem, et a béni celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Celui qui bénit, il a plus de pouvoir que celui qui reçoit la bénédiction. Donc ça veut dire qu'Abraham et toute sa descendance étaient dépendantes de Melchisédek, puisqu'il lui a donné la dîme. Hein? Comme quoi l'argent, hein? C'est un signe, hein? C'est prophétique. Et ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent la dîme. Mais là, c'est quelqu'un dont il est attesté qu'il est vivant. C'est-à-dire pour toujours. Il est prophétiquement le Christ, Melchisédek. Et pour ainsi dire, Lévi lui-même, qui a perçu la dîme, l'a payé à Melchisédek par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek vint au-devant de lui. Ah ben dis donc, pour Abraham, pour Lévi, il faut attendre 4 générations. Si donc la perfection avait pu être réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple reçut la loi, au mont Sinaï, par Moïse, c'est-à-dire 1700 ans environ Abraham, 1400 ans environ le mont Sinaï et Moïse. Donc le sacerdoce de Melchisédek était supérieur au sacerdoce d'Aaron. Qu'était-il encore besoin qu'il se levât un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Puisque le roi David dit « Le Messie sera prêtre selon l'ordre de Melchisédek ». Mais comment peut-il être prêtre? Il est descendant de la tribu de Juda et du roi David. C'est plutôt un homme politique. Pourquoi vous dites qu'il est prêtre? Et en plus, pas selon l'ordre de Lévi et d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. En effet, celui dont ces choses sont dites est d'une autre tribu, de laquelle nul n'a servi à l'autel, la tribu de Juda. Vous comprenez bien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle aux Juifs. Un rabbin qui lit ça, normalement, il est dans ses retranchements, là. Bon, vous voyez. En effet, celui dont ces choses sont dites est d'une autre tribu, car il est manifeste que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne les prêtres. Et cela est encore plus manifeste s'il se lève un autre prêtre à la ressemblance de Melchisédek, établi non pas d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie indissoluble. Car l'Écriture rend ce témoignage, « Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Il y a ainsi abolition de la première ordonnance à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien à mener à la perfection, mais elle est l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, les 10 commandements. C'est des coups de pied, voilà. Enfin, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. C'est ça les 10 commandements. Pour nous sauver, mais on a du mal. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car les autres prêtres le sont devenus sans serment, mais celui-ci a été établi avec serment. Dieu lui ayant dit, le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour l'éternité. Jésus est par cela même le garant d'une meilleure alliance. De plus, chez eux, il y a des prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de l'être toujours, mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce éternel. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il est ressuscité, Jésus. Car il convenait que nous eussions un tel pontife, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les prêtres, d'offrir tous les jours des victimes, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car cela... il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établie pour prêcher des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui est postérieure à la loi, institue le Fils qui est parfait pour l'éternité. Objection. Alors on est quoi, nous, les prêtres du Nouveau Testament? Eh bien, nous sommes des instruments du prêtre Jésus. Quand on donne le sacrement de confession, quand on confectionne, on dit les paroles de Jésus et qu'on rend présent le sacrifice du Vendredi Saint, nous sommes transitoirement Jésus. Et le reste du temps, des affreux pécheurs. Voilà. Mais, voyez-vous, à chaque fois qu'on donne un sacrement, on est Jésus. Et si un jour vous baptisez en urgence quelqu'un, vous pourrez vous dire, j'ai été Jésus pendant quelques secondes. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes canal de la grâce. Seulement pour une certaine stabilité, les prêtres le sont toujours. En enfer, au purgatoire ou au ciel, on est prêtre. En enfer, c'est pas drôle du tout, parce que les démons nous le rappellent toutes les 2 minutes. Au purgatoire, ben, c'est pas glorieux, mais on espère, comme les autres. Et au ciel, on dit, ah, vous avez été prêtre. Mais seulement vous avez le grand prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'emporte, hein, comme le soleil sur des lunes. Chapitre 8. Point capital dans ce que nous disons. Nous avons un pontife tel qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Tabernacle, ça veut dire tente. Les Hébreux sont des bédouins, si, enfin des nomades. De tente, ils établissaient leur tente, ils la pliaient, ils allaient ailleurs, ils la pliaient. La sédentarisation est venue après l'Égypte. Enfin, pendant l'Égypte, ils ne bougeaient plus beaucoup, hein, pendant 430 ans, et ensuite en Terre Sainte. Ministre du sanctuaire, quand on a fait un temple de pierre pour mettre l'arche d'alliance, ce coffret en bois plaqué or, où on avait mis le bâton d'Aaron qui avait fleuri, parce que Dieu dit, eux sont prêtres, pas vous. Et le bâton d'Aaron avait fleuri, tandis que les bâtons des autres patriarches, des autres tribus, étaient restés bois mort. Vous aviez un pot de cette nourriture miraculeuse de la manne, vous aviez les deux tables des 10 commandements, la deuxième version identique mais pas cassée. Voilà. Ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non pas un homme. Jésus est le temple. Il est l'arche d'alliance. Il n'y a plus besoin d'arche d'alliance. Vous voyez, ce sont des cinéastes juifs, Steven Spielberg, qui fait à la recherche de l'arche perdue. Nous, on s'en moque complètement de l'arche d'alliance. Ah, mais vous voudriez quand même pas retrouver les tables des 10 commandements, le bâton d'Aaron, avec des petites fleurs dessus. Vous n'auriez pas un petit pot de manne, hein, pour y goûter? Ben non. Tout ça, ça signifiait l'Eucharistie, ça signifiait le sacerdoce de Jésus. Donc maintenant qu'on a Jésus, on n'a plus besoin de ce qu'il annonçait. Car tout pontife est établi pour offrir des dons et des victimes. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. Chapitre 8, verset 4. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il s'y trouve déjà ceux qui offrent des oblations selon la loi, lesquels exercent un culte qui n'est qu'une figure et une ombre des choses du ciel, ainsi qu'il fut répondu à Moïse lorsqu'il allait construire le tabernacle. Vois, dit Dieu, fais toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse a vu le temple. Mais il a vu une liturgie divine autour de la présence divine. Mais notre pontife a reçu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en substituer une seconde. Car c'est en blâmant les Juifs que Dieu dit « Voici, des jours viendront, dit le Seigneur, où je contracterai avec Judas une alliance nouvelle. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est une nouvelle alliance que celle de Moïse, parce que le peuple avait construit le veau d'or, avait fondu le veau d'or. Donc nous en avons profité avec les Juifs qui ont accueilli leur Messie. Nous sommes allés vers cette alliance. Nous sommes de religion juive, Nous sommes le véritable Israël. Alors, ceux qui sont juifs actuellement, ben pour certains, ils sont descendants ethniquement, par ADN, des juifs du peuple juif, mais ils ne suivent pas parfaitement leur religion, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie. Ah oui, mais ils se sont dilués, les juifs qui avaient cru en Jésus. Ben oui, ils n'ont pas. Puisque, avec les baptisés, ils étaient baptisés, ils se sont mariés les uns avec les autres, et on ne sait plus qui est juif dans la communauté juive de Lyon. Voyez? Vous avez peut-être certains Burgondes qui ont des ancêtres de juifs de la communauté de Lyon du IIe siècle qui étaient là. Mais on ne sait plus qui est juif, qui sont nos ancêtres juifs qui ont été les premiers à croire. Ceux qui actuellement ne croient toujours pas que c'est le Messie, vous en avez des souches de l'Orient, qu'on appelle séfarades, et des souches qui sont parties vers les pays de l'Est, qu'on appelle les Ashkénazes. On dit oui, mais ce sont les. Je ne sais plus quelle tribu qui se dit juive, mais ils ont une théologie, une liturgie qui vient directement des juifs, ce sont des juifs, les Khazars. Ben oui, mais bon, c'est une blague, hein. Peut-être que des Khazars se sont mariés avec des juives, mais les juifs devaient être bien observants pour bien conserver leur tradition. Quand vous voyez les juifs polonais ou certains juifs russes, ben, c'est pas des rigolos en matière de Torah, hein. Donc, il n'y a pas eu de perte dans la transmission, hein. Donc, s'il n'y a pas eu de perte dans la transmission pendant des siècles, c'est que, ah ben, à mon avis, voilà, ils ont bien une origine juive ethnique. Et voilà donc. Alors, voilà ce que dit Dieu, chapitre 8, verset 12. Car je leur pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, Dieu a déclaré la première vieillie. Or, ce qui devient ancien qui vieillit est proche de sa fin. Chapitre 9. La première alliance a eu aussi des règlements relatifs au culte, à un sanctuaire terrestre, car un tabernacle avait été dressé, dans la première partie duquel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et cette partie s'appelait le saint. Puis, derrière le second voile, était la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant un encensoir d'or et l'arche d'alliance toute couverte d'or, dans laquelle était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, qui couvraient de leur ombre le propitiatoire. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela en détail. Donc il y avait deux anges représentés dans l'Ancien Testament. Il y avait deux images sculptées, fondues, en or. Ah, c'est de l'idolâtrie! Ben non, qu'est-ce que vous croyez? C'est des chérubins? Dites à des chérubins qui se prennent pour Dieu. Ah non? Lucifer, oui, mais pas ces deux-là. Voyez. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les prêtres entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils exerçaient des fonctions sacerdotales. Mais dans la seconde, n'entre qu'une fois par an le seul grand prêtre, non sans y apporter du sang qu'il offre pour son ignorance et pour celle du peuple. L'Esprit Saint montre par là que le chemin du sanctuaire n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent, où l'on offre des dons et des victimes qui ne peuvent rendre parfait selon la conscience celui qui rend ce culte, puisqu'il ne consistait qu'en mets et en breuvages, et en diverses ablutions, et en des cérémonies charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Mais le Christ, étant venu comme pontife des biens futurs, a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs ou des veaux ou de l'agneau pascal, mais avec son propre sang, puisqu'il est l'agneau de Dieu, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et l'aspersion faite avec la cendre d'une génisse, hein, d'une vache, sanctifient ceux qui sont souillés, de manière à procurer la pureté de la chair, Imaginez le dimanche à 11h, asperges semées avec un pot de sang. Là, vous êtes pieusement là. On ira chez le teinturier demain. Et les Juifs, quand ils étaient aspergés du sang, c'était purificateur. Et ensuite, ils nettoyaient leurs vêtements, c'était des taches de sang. Ah, ça rigolait pas, hein. Mais le Christ sur la croix, lui, c'est sanglant. Et justement, chapitre 9, verset 14, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous le servions le Dieu vivant. C'est pourquoi il est le médiateur d'un nouveau testament, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des iniquités commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, passage de droit, de loi naturelle impressionnant, de succession des générations. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne pour qu'il y ait transmission de l'héritage. Ben dis donc. En effet, un testament n'est valable que par la mort, puisqu'il n'a point de force tant que le testateur est vivant. C'est pourquoi le premier testament n'a pas été inauguré sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir proclamé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre même et tout le peuple. Hein, les deux stèles de pierre, le livre. L'hysope, c'est une branche d'une plante. Asperges mei hysopo, n'est-ce pas? Nous sommes des Hébreux à la messe. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il aspergea aussi de sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Et selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que le péché et la haine, c'est le meurtre. Donc pour compenser le meurtre, il faut qu'un innocent meure. Et qui compense tous les autres meurtres. Et surtout la mort du pécheur, parce que lui aussi, il va y passer. Il tue les autres, mais à un moment donné, lui-même va mourir. Et il va dire, oh, mais de sa belle mort dans son lit, comme certains mafieux. Ouais, ben, si Jésus n'est pas mort pour lui, le mafieux qui meurt tranquillement dans son lit, il va en enfer pour l'éternité. Donc il a bien intérêt à prier la Vierge Marie, et de tout son cœur, et très sincèrement à ce moment-là. Hein? Ou alors il termine comme le mauvais riche. Ou les vierges folles. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. Mais pourtant, j'étais un mafieux très. Enfin, j'avais une statue de la Vierge dans mon jardin. Je faisais célébrer des messes et tout. Oui, et tu faisais mourir des enfants. Tu as distribué de la drogue. Des familles ont été déchirées. Je ne te connais pas. Oh, ben, ça, c'est pas... Je suis italien. Ça ne servira pas à grand-chose à ce moment-là. Il était donc nécessaire, puisque les emblèmes des choses célestes sont purifiés de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des victimes meilleures que celles-là. Car ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, que Jésus est entré, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Impressionnant, hein? Et ce n'est pas pour s'offrir soi-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la création du monde, tandis qu'il n'a paru qu'une seule fois à la fin des siècles pour abolir le péché par son sacrifice. Donc on est à la fin des temps depuis 2000 ans. Donc, vous voyez, quand moi je fais une crise de mystico-dinguerie et que je vous dis c'est bientôt, Jésus va revenir, ben, oui, monsieur l'abbé, c'est bien, voilà. Hein? Rendez-vous à la maison Marie-Thérèse quand vous aurez 92 ans et que vous nous direz je vous l'avais bien dit, vous l'avez bien dit que c'était la fin du monde. Encore un petit peu de yaourt, monsieur l'abbé? Monsieur le chanoine? Non. Bon. Et de même qu'il est établi que les hommes meurent une fois et qu'ensuite vient le jugement, lieu théologique du jugement particulier, de l'absence de réincarnation. Chapitre 9, verset 27 de l'Épître aux Hébreux, pas de réincarnation. Et de même qu'il est établi que les hommes meurent une fois et qu'ensuite vient le jugement. Tout de suite, jugement particulier, avant le jugement général. Le jugement général, c'est à la fin des temps, lorsque tout le monde ressuscitera et que tout le monde connaîtra la vie de chacun pour la gloire de Dieu. Et nous, enfin nous, ceux qui auront regretté leurs péchés n'auront pas honte. Au contraire, tout le monde connaîtra nos péchés, mais seulement nous les aurons regrettés. Et donc ça donnera gloire à Dieu et à notre humilité de les avoir regrettés. Non. Jugement particulier, c'est pour nous, pour notre éternité. Dieu, Jésus nous juge. Il attend notre réponse. Qu'as-tu choisi entre l'amour et la haine? Et ce jugement est rendu public à la fin des temps, aux yeux de tous. Et on va savoir toutes les origines des guerres, les morts, les crimes et tout ça. Ça sera du Pierre Belmar, mais alors puissance 100. C'est-à-dire que Dieu veut rétablir toute justice à la fin des temps. Nous saurons qui était criminel, qui a fait le mal, quel était le degré de responsabilité de tous pour que la justice soit universelle.
Donc c'est bien à la fin des temps qu'on rentre au paradis. Enfin, si on n'est pas saint.
Ah non, il y en a qui y seront déjà.
S'ils sont saints.
Oui, ou sanctifiés, parce qu'après le purgatoire, on va au ciel. On va dans la vie divine. Le ciel, c'est pas les nuages, hein, c'est pas. Parce que le même ciel très beau que vous voyez, tout bleu avec un beau soleil, la nuit, c'est tout noir et voilà. Donc le ciel, c'est la vie divine, c'est vivre avec Dieu.
Donc ils ne reviennent pas après, j'imagine, sur Terre pour le jugement général.
Ah si, au jugement général, on se réincarne dans un corps nouveau. Mais une seule fois. Hein.
Même si on est au paradis, on redescend sur
mais Terre. L'âme, oui, mais elle ne redescend pas, elle est ni en haut ni en bas. Oui. C'est une manière de parler, hein. Le ciel en haut, l'âme, elle n'a pas elle a pas de matière, elle n'a pas de lieu.
Et on revient. Quoi.
On revient et on a un corps nouveau. Constitué à partir des restes de l'ancien, même de la poussière au fin fond des océans, mais un corps nouveau dans sa maturité et sans maladie. Les bébés ressuscitent adultes, les vieillards ressuscitent matures et sans infirmité. Les kudjats ressuscitent avec deux jambes qu'ils n'ont jamais eues mais qu'ils devaient avoir, parce que Dieu aime la nature humaine dans sa perfection. Et là, pour le coup, tous ceux qui disent « Ah oui, mais moi j'avais ce visage comme si, j'aurais voulu un autre visage et tout », mais les critères et les canons de la beauté ne sont tout à fait relatifs. Ah oui, mais moi j'ai les yeux comme ci, moi j'aurais voulu qu'ils soient comme ça. Mais vous inquiétez pas, quand vous serez passé par le purgatoire, vous n'aurez plus aucune envie d'avoir un visage comme ci ou comme ça. Vous comprendrez que c'est l'amour qui est le plus important.
Les âmes d'Alien ne pas.
Si. Elles ressuscitent, mais ensuite leur corps redescend en enfer, où ils brûlent sans se consumer. C'est drôle ça. Comme le buisson ardent, mais c'est... Oui. Attendez un instant, je termine ici. Verset 28 du chapitre 9. De même, le Christ s'est offert une fois pour effacer les péchés de beaucoup. Une seconde fois, il apparaîtra sans péché pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Ça, c'est le retour du Christ. Vous voyez ? Alors... Ceux qui seront déjà morts, eux, auront déjà été jugés, seront déjà rentrés dans le salut. Mais là, saint Paul, lui, ne sait pas quand sera le jugement. Le Christ lui-même ne dit pas quand sera le jugement dernier. La proclamation de tous les jugements particuliers, de tous les temps, de tous les siècles, de tous les jugements personnels. Jugement général. C'est pas un nouveau jugement, c'est la proclamation de toutes les vérités, de tous les péchés, de tous les actes d'amour, de tous les temps. Une connaissance infuse et spirituelle à tous les esprits. Et ça, c'est impressionnant. Mais Et ainsi, on verra combien Dieu a été patient, bon, a pardonné à telle personne qu'on pensait s'être damné et qui s'est sauvé. Ou alors à des personnes très hypocrites, très gnagnas, et qui se sont damnées, qui étaient méchantes comme des teignes, mais qui ne le montraient pas. On verra tout ça. Si vous êtes très curieux, vous pouvez faire du spiritisme, invoquer les démons, et ils vous raconteront n'importe quoi. Le bon Dieu ne veut pas qu'on connaisse l'avenir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il nous fait prier pour nos êtres chers, ou pour nos ennemis. Il ne veut pas qu'on sache qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé. C'est très exceptionnel que, par exemple, la Vierge Marie dise, ou un Padre Pio, ou un Secouré d'Ars, il est sauvé. Voilà. D'ailleurs, jamais ils ne disent qu'il est damné. Ils ne répondent pas. Mais est-ce qu'il est sauvé? Il est sauvé. Ou il est en purgatoire, donc il est sauvé. Verset 28, donc, de ce le salut qui l'attendent.